Décryptage. Anne Corpet.
La présidence française du Conseil de l'Union européenne s'achève ce soir. C'est désormais la République tchèque qui va assumer la présidence tournante. Le mandat de la PFUE, comme on dit dans le jargon, s'annonçait déjà compliqué avec les élections présidentielles et législatives en France. Il s'est avéré hors norme depuis la fin février avec l'invasion russe en Ukraine. Les diplomates français en poste à Bruxelles en sortent essoré, mais ils se disent fiers du travail accompli. La France assure avoir rempli 90% de ses objectifs initiaux et cette présidence s'achève avec l'admission de l'Ukraine et de la Moldavie comme candidate à l'Union européenne. Aujourd'hui, Décryptage fait le bilan de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et avec nous en studio, Sébastien Maillard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors, co-auteur du livre « Faire l'Europe dans un monde de brutes » qui vient de sortir en poche. Merci d'être venu jusqu'à nous. Nous sommes aussi en ligne avec Sylvain Kahn. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien et géographe, professeur à Sciences Po Paris, auteur de « L'histoire de la construction de l'Europe depuis 1945 » et c'est paru chez PUF.
L'objectif de cette présidence, je dirais que nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Et c'est ça l'objectif.
On vient d'entendre un extrait du discours d'Emmanuel Macron à la veille du début de la présidence française. À l'époque, on craignait que cette PFUE soit parasitée par l'élection présidentielle. On en parlera dans une minute, hein. C'est la guerre en Ukraine qui a évidemment chamboulé le jeu. Mais tout d'abord, Sébastien Maillard, est-ce que ce scrutin présidentiel a effectivement pesé sur le mandat français ?
Ça n'a pas facilité la tâche des ministres qui ne savaient pas toujours s'ils seraient là la fois d'après. Mais il y a eu une continuité de l'État, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, et pour toute la haute administration qui était impliquée au niveau diplomatique aussi dans la conduite de ces négociations, eux, ils ont assuré le job pendant tout le semestre. Mais c'est vrai que pour les ministres en exercice qui devaient présider ces conseils, parce que présider le Conseil de l'Union européenne, c'est en tant que ministre de l'économie, ministre de l'agriculture, ministre de l'éducation, vous présidez des réunions avec vos homologues des 26 autres pays de l'État de l'Union européenne. Et là, il y avait un devoir de réserve du coup lié à la campagne électorale. Et puis après, il y avait des législatives. Donc ça aussi, ce cadre électoral qui était un peu malheureux finalement quand même pour cette présence française, ça pouvait surtout éclipser ses résultats dans les médias français, puisqu'on était bien sûr nous davantage intéressés avant tout par les élections françaises.
Alors, bon, la guerre en Ukraine a évidemment percuté de plein fouet ce mandat français. Les Européens ont adopté une série de mesures en un temps record, hein, les sanctions, l'aide à l'Ukraine, l'accueil des réfugiés. Sylvain Kahn, quel rôle Paris a joué dans cette réaction rapide ?
Le rôle qu'a joué Paris dans cette réaction rapide, je dirais que c'est d'abord celui de ce pays de l'Union européenne, qui est d'abord un membre fondateur, deuxièmement ce qu'on appelle un grand pays. Alors grand pays, c'est pas à prendre au sens moral, c'est à prendre au sens, disons, d'une tradition étatique à la fois ancienne et développée. Et la République française est connue en Europe pour avoir notamment un ministère des Affaires étrangères, un appareil diplomatique, une coordination ministérielle s'agissant en particulier des affaires européennes qui est à la fois très dense et très efficace.
Donc ça tombait bien, quoi.
Ça tombait très très bien, exactement, ça tombait très très bien. Il y a un certain nombre de diplomates de haut rang qui sont au SEAE, le Service européen d'action extérieure par exemple, le représentant permanent de la France à Bruxelles, c'est-à-dire l'équivalent d'un ambassadeur, simplement on ne dit pas ambassadeur parce qu'on ne peut pas être ambassadeur auprès de soi-même, on est ambassadeur auprès d'un pays étranger et l'UE n'est pas un pays étranger puisque nous sommes dans l'UE. Donc Philippe Léglise-Costa, est un diplomate qui connaît très très bien l'Europe depuis très très longtemps. Bon, donc je vous dis tout ça pourquoi ? Pour vous dire que même si la France n'avait pas eu la présidence semestrielle tournante du Conseil de l'Union européenne, il est fort à parier que dans le contexte que vous évoquez, à savoir l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la France aurait joué un rôle clé, stabilisateur, moteur, parce que c'est un problème diplomatique absolument exceptionnel. Il se trouve que à partir du moment où la France avait la présidence, d'une certaine manière, c'était...
elle avait les coudées plus franches. Sébastien Maillard, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, ce qui est frappant, c'est que finalement, ça n'a pas finalement tant fait que ça dérailler les projets législatifs que la France portait. Alors, elle a eu en plus à mener effectivement toutes ces négociations pour arriver à ces 6 trains de sanctions successifs qui ont été pu être élaborés en 4 mois. Mais le reste du travail prévu a quand même été conduit. Et c'est ça qui est peut-être assez surprenant. Ça a été moins vu en France, du coup, parce que la guerre en Ukraine, bien sûr, dominait l'agenda. Mais le reste des autres objectifs ont quand même été poursuivis.
On y reviendra à ces autres objectifs qui ont été atteints. Mais Sébastien Maillard, est-ce que l'invasion russe, en fait, n'a pas finalement servi les ambitions françaises concernant l'Union européenne, la nécessité d'une autonomie stratégique, par exemple sur le plan de la défense, qui est un dossier cher à Emmanuel Macron?
On se souvient que la devise de cette présidence était relance, puissance, appartenance. Et le mot puissance, je dirais, a pris toute sa résonance pendant cette période. On a souvent dit d'ailleurs que ça donnait raison rétrospectivement à ce narratif du président Macron, d'ailleurs qu'on a entendu au tout début de cette émission. Et oui, l'autonomie stratégique, qui est maintenant aussi dans des termes qu'on emploie maintenant couramment, y compris en Allemagne ou aux Pays-Bas, ça a pris tout son sens dans la réaction à cette guerre.
Mais alors, la guerre en Ukraine a aussi renforcé, réveillé l'OTAN qu'Emmanuel Macron avait qualifié, déclaré en état de mort cérébrale. Sylvain Kahn, le renforcement de l'alliance en Europe et une défense européenne, ce n'est plus incompatible ?
Non. Et juste avant de détailler ce point, il me semble aussi que, pour compléter ce qui vient d'être dit, que cette guerre de la Russie contre l'Ukraine a également révélé et peut-être conforté le rôle de la Commission européenne. Parce que de toute façon, il faut bien que nos auditeurs soient conscients qu'une présidence tournante du Conseil de l'Union européenne a un rôle de faire tourner la machine à partir d'un agenda dont elle hérite.
Oui, elle pousse des dossiers qui sont déjà sur la table, en quelque sorte.
Voilà, c'est ça. Et donc, bien entendu, le rôle peut être important parce qu'il s'agit d'accentuer, d'avoir une capacité de réaction, de faire aboutir des dossiers, de savoir négocier, de savoir mettre d'accord, etc. Mais le rôle de la Commission, dont on a déjà vu à quel point il se révélait comme important, et je crois qu'on peut dire, c'est encore un peu tôt parce que le mandat de la Commission von der Leyen n'est pas terminé, mais il est fort probable qu'on n'ait pas eu de Commission et de président de Commission aussi marquant et aussi entraînant avec la Commission von der Leyen que depuis la Commission de l'or. Hein. Et il faut se rappeler que Mme von der Leyen n'était pas du tout censée devenir présidente de la Commission au moment des élections européennes.
Oui, c'est Emmanuel Macron qui avait poussé à ce qu'elle soit.
Qui a joué un rôle, voilà. Oui. Et donc, vous voyez, on pourrait dire, par une espèce d'ironie de l'histoire, si vous voulez, que l'un des rôles sans doute les plus importants d'Emmanuel Macron dans sa présidence française du Conseil de l'UE, aura été d'avoir puissamment contribué à faire nommer puis élire par le Parlement européen en 2019 Ursula von der Leyen, dont la Commission, hein, elle n'est pas seule, il y a Borrell pour les affaires étrangères, il y a Timmermans pour l'État de droit et pour le Green Deal.
On ne va pas énumérer tous les responsables.
Oui, mais, voilà.
Donc effectivement, la Commission, c'est elle qui pilote Sylvain Kahn, notamment sur les questions énergétiques.
Exactement, et pour rebondir sur ce que disait Sylvain Kahn, c'est vrai qu'il y a eu pendant cette présidence française un bon tandem avec la Commission, qui n'était pas le cas dans la précédente présidence en 2008, entre la Commission Barroso et la présidence de Nicolas Sarkozy. Il y avait beaucoup plus de frittements. On sentait que pendant la crise financière, par exemple, la France trouvait que la Commission européenne n'était pas du tout à la hauteur. Là, il y a eu la préparation des sanctions par la Commission, qui ont après été adoptées par le Conseil que présidait la France. Effectivement, beaucoup plus, je dirais, de continuité.
Alors justement, vous parliez de 2008, c'était la précédente présidence française. Et il se trouve que, hasard de l'histoire, Nicolas Sarkozy a aussi dû faire face à une guerre, l'invasion de la Géorgie, encore par la Russie. Et alors à l'époque, il avait voulu occuper le devant de la scène également. Est-ce que Emmanuel Macron, qui a aussi s'est montré actif sur le plan diplomatique, alors peut-être plus au titre de la présence française au Conseil de sécurité de l'ONU qu'au titre de président du Conseil de l'Union européenne, mais est-ce qu'il n'a pas été trop loin dans son désir de maintenir une relation spécifique avec Vladimir Poutine au regard du discours des Européens orientaux, Sébastien Maillard?
Alors, ça lui a été parfois reproché. Je pense qu'il a effectivement cherché à maintenir ce dialogue coûte que coûte, et notamment aussi avant le déclenchement de la guerre. Après, il y a eu l'épisode de Boutcha qui a mis une certaine pause dans cette relation. Je pense qu'il aurait eu de toute façon cette conduite-là, peut-être même indépendamment de la présidence du Conseil, puisqu'il faut bien savoir que Emmanuel Macron, en tant que président de la République, chef de l'État, en fait, ne présidait pas le Conseil de l'Union européenne. C'est la France qui préside, mais lui, personnellement, dans ses fonctions, il ne présidait pas le Conseil de l'Union, puisque ce sont les ministres, comme je disais, qui, selon les différentes formations, président ces conseils. Je pense que ce qui a beaucoup surtout chamboulé dans son agenda cette présidence, c'est que le 11 mars, il avait donc fait ce sommet de Versailles qui, avant la guerre, était projeté comme un sommet sur plutôt de refonte économique. On allait reparler de la façon dont on gère nos finances et de voir comment on pouvait réinventer le modèle économique européen. Et là, finalement, bien sûr, ça a été un agenda de souveraineté, comme selon l'expression de ce sommet, pour vraiment faire l'unité. Peut-être la meilleure réussite de cette présence française à la guerre de l'Ukraine, c'est d'avoir préservé l'unité des 27 face à Poutine.
Sylvain Kahn, Emmanuel Macron a proposé une communauté politique européenne en mai devant le Parlement européen, c'est-à-dire avant l'acceptation du processus avant l'entrée de la Moldavie et de l'Ukraine dans le processus d'adhésion. Est-ce que c'était le bon timing? Et puis est-ce que ça correspond aux attentes des pays qui aspirent à entrer dans l'Union, cette communauté politique européenne?
Bah disons, à l'époque, il y a quelques semaines, donc, quand le président français a fait cette proposition devant le Parlement européen, beaucoup l'ont interprété comme une manière pour la France de préparer un refus ou une très forte réserve au statut de candidat qui pourrait être donné à l'Ukraine. Alors depuis, la France s'est ralliée sans réserve au fait qu'on donne à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat, et donc c'est effectif depuis il y a une semaine, et reste quand même ce projet de communauté politique européenne qu'on peut donc maintenant envisager, je dirais, beaucoup plus sereinement, d'autant plus que quand le président français en avait parlé, et ça n'a pas tellement changé depuis, il avait donné très très peu de contenu ou de détails. Donc maintenant on sait qu'il a obtenu de tous ses homologues que ça soit transmis à la présidence tchèque qui va donc commencer demain, et qu'au mois d'octobre, quand il y aura un sommet en octobre prochain, il y ait vraiment des discussions approfondies pour voir ce qu'on peut en faire. Alors moi, la discussion est très ouverte, alors allons-y, si vous voulez. Moi, je crois que la communauté politique européenne pourrait avoir du sens, en fait, en formalisant, en donnant une visibilité, une institutionnalisation à quelque chose qui existe déjà. Parce que ce qui existe déjà, c'est un espèce d'espace européen qui est complètement polarisé par l'UE. Vous avez non seulement l'Union européenne, mais vous avez les pays qui sont dans l'espace économique européen, ainsi que la Suisse, dont on pourrait dire, de manière très imagée, qu'ils sont déjà à 75% membres de l'Union européenne, si vous voulez, sans l'être juridiquement. Il y a tous les pays de la politique de voisinage. Il y a le Royaume-Uni, avec lequel on a un accord de coopération et de commerce. Il y a même, par extension, les pays comme le Japon, ou le Canada, avec lequel on a un accord de libre-échange extrêmement poussé. Donc, d'une certaine manière, si vous voulez, la communauté politique européenne existe déjà, sauf qu'elle n'est pas formalisée. Or, aujourd'hui, tous ces pays-là ont un ou deux sujets vraiment en commun, outre le fait qu'ils partagent des valeurs communes. Et ces sujets communs, bah, c'est effectivement les menaces qui sont notamment celles de la Russie d'une part et de la Chine d'autre part. Ce qui nous ramène au sujet que vous vouliez qu'on traite tout à l'heure, à savoir l'OTAN.
Sébastien Maillard.
Oui, cette communauté politique européenne, c'est d'ailleurs une idée qui nous est chère aussi à l'Institut Jacques Delors. Et notre président de la Nicoletta lui parle même de Confédération européenne. Ça a vraiment d'abord été pensé en réaction aux demandes d'adhésion, puisque c'est presque historique, on a reçu 3 demandes d'adhésion en une semaine.
Hein, oui, d'ailleurs,
l'Ukraine, Moldavie, Géorgie.
Et vous l'avez trouvé convaincant, Sébastien Maillard, Emmanuel Macron, sur les perspectives d'élargissement de l'Union? On le sent un petit peu réticent.
Là, il a été clair en faisant ce voyage à Kiev et en menant tout son poids politique pour une fois qu'on lâche le mot candidat, c'est un mot fort en
Europe. Le 16 juin, c'était pas un peu trop tard d'ailleurs ce voyage?
Je pense que la demande d'adhésion était le 28 février. Je pense qu'à l'échelle de la façon dont sont conduites d'habitude les demandes d'adhésion, on n'était pas en retard parce que c'est quand même conceptuellement énorme de ce pas fait dans la façon dont on envisage l'extension de l'Union européenne. Mais la communauté politique européenne, elle vise aussi à arrimer ses candidats vers l'adhésion. Puisqu'on le voit par exemple aujourd'hui avec la Serbie, c'est un pays qui est candidat, qui n'ont même négocié l'adhésion, mais qui pour autant ne refuse d'appliquer les sanctions européennes contre la Russie, qui même a refait un contrat de gaz avec ce pays, qui avec un contrat avec la Chine. Donc le but de la communauté politique européenne, c'est d'être cohérent et de davantage s'aligner sans attendre d'être un État membre de l'Union européenne, d'être déjà bien engagé, je dirais, dans le camp européen.
Alors, je reste avec vous, Sébastien Maillard, parce que vous y faisiez allusion tout à l'heure. Il y a plusieurs dossiers sur lesquels Emmanuel Macron avait dit vouloir avancer, qui ont effectivement abouti, lesquels vous semblent importants?
Alors, il y en a effectivement beaucoup. C'est le premier rôle d'une présidence française, et Sylvain Kahn l'a rappelé, c'est de faire avancer les dossiers législatifs qui sont sur la table. La
et
France
choisir
alors,
lesquels on fait avancer.
C'est ça qu'on tient l'ordre du jour. Mais les objectifs français, c'est d'une part d'avoir un encadrement européen de l'évolution des salaires minimums nationaux. Et là-dessus, il y a eu effectivement un accord de trouver pour que les salaires minimums nationaux à travers l'Europe arrivent à un niveau, comme on dit dans le jargon, adéquat, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas luttés contre le travail. Les salaires trop bas et la lutte contre le dumping social. Il y a eu bien sûr aussi les 2 règlements pour encadrer le numérique face au big tech, ce qu'on appelle le DMA, DSA, dans le jargon, pour les services lutter contre les contenus haineux sur les sites. Et puis il y a eu cette taxe carbone aux frontières et tout le paquet climat avec ça. C'était vraiment le bouquet final de cette présidence, avec notamment le vote donc au Conseil de la fin des voitures thermiques en 2035, ce qui est aussi assez énorme comme changement dans l'industrie automobile.
Donc Sylvain Kahn, vous êtes d'accord, c'est plutôt un bilan globalement positif?
C'est un bilan globalement positif. Il y a même des chiffres que la présidence maintenant fait circuler en disant qu'il y a eu 130 accords, dont 95 au Conseil de l'UE, et 31 qui sont définitifs, puisqu'ils impliquaient et le Conseil de l'UE et le Parlement européen. Et je crois qu'on peut ajouter, parce que c'est très important, l'Europe au quotidien, le fait qu'il va enfin y avoir un chargeur universel pour tous les appareils mobiles connectés. Et d'autre part, enfin, ça fait 10 ans que c'était sur la table, il va y avoir maintenant un quota minimum de femmes pour tous les conseils d'administration de toutes les entreprises du CAC 40 et de ses équivalents en Europe.
Sébastien Maillard, vous avez ajouté un autre objectif à
atteindre? Par contre, il y a un nombre au tableau dans ce tableau de chasse assez garni, c'est que, et c'est vraiment une déception française pour le
c'est
coup.
C'est la question que j'allais vous poser.
Ah bon, d'accord. Eh bien, c'est que, et pourtant Bruno Le Maire s'est beaucoup impliqué là-dedans, mais vous savez qu'il y avait un accord au niveau de l'OCDE pour imposer une taxation minimale à l'ensemble des multinationales de 15%. Le but, c'était de transposer cet accord en une directive européenne pour l'ensemble des 27. Et là, il y a eu un veto hongrois à la dernière minute qui était impossible à lever. Donc là, oui, ça a eu un échec pour arriver, alors que c'était un objectif clairement affiché de la France.
Et très, très rapidement, Sébastien Maillard, pour conclure, la PFUE, c'est une période éphémère. C'est surtout l'occasion de promouvoir l'Union européenne dans les pays qui assument la présidence. De ce point de vue-là, est-ce qu'on peut parler d'un échec vu le nombre d'eurosceptiques qui ont été élus à l'Assemblée française?
On n'est pas effectivement le pays le plus europhile, ça c'est clair. Cette idée d'appartenance, je parlais de la devise qui était mise en avant, et c'est l'occasion pendant une présidence de le faire. Je voyais en arrivant à Paris là, que l'Arc de Triomphe a à nouveau un drapeau européen qui est mis en avant. Mais effectivement, là, la guerre en Ukraine, comme et avant tout, surtout les élections présidentielles et législatives, ont sans doute éclipsé l'essentiel du travail fait à Bruxelles dont on vient de parler.
Merci beaucoup. Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors, Sylvain Kahn, professeur à Sciences Po. C'est la fin de Décryptage. L'émission fait une pause estivale. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver en septembre.